L'esprit critique. Mediapart.
Hervé Di Rosa, le passe-monde, est le nom de l'exposition que le Centre Pompidou consacre à ce peintre, sculpteur et collectionneur, figure du mouvement dit de la figuration libre, né au début des années 80, qui puise largement dans la bande dessinée et la culture populaire. Hervé Di Rosa est lui-même né en 1959 à Sète, où il a fondé au début des années 2000 le MIAM, le Musée International des Arts Modestes. Mais les grandes institutions culturelles françaises l'ont rarement, voire jamais mis en avant, contrairement à des lieux comme la Maison Rouge du collectionneur Antoine de Galbert en 2016. L'exposition elle-même au Centre Pompidou est relativement modeste. Elle s'intitule « Le passe-monde » parce qu'elle restitue trois décennies de voyages effectués par l'artiste durant lesquels il a confronté ses images et son imaginaire à des techniques et des artisans de Bulgarie, du Portugal, du Ghana, du Cameroun, du Vietnam, du Mexique ou de l'Espagne. Avant qu'on entre peut-être dans cette exposition, est-ce que vous pouvez, Margot Nguyen, nous restituer un peu plus précisément ce qu'est ce mouvement dit de la figuration libre dont Hervé Di Rosa est le représentant le plus célèbre ?
Oui, donc dans la figuration libre qui rassemble un certain nombre de jeunes peintres, donc Hervé Di Rosa, Robert Combas, François Boiron, se forme donc au début des années 80 et va vraiment valoriser une approche de la peinture qui s'inspire d'une culture populaire. En fait, souvent, il y a le parallèle qui est fait entre la figuration libre serait à la peinture ce que le rock est à la musique. Donc vraiment venir puiser des références formelles dans la bande dessinée, le street art. Cette génération a aussi été très marquée par des voyages. Donc ils étudient aux arts déco. Hervé Di Rosa étudie aux arts déco et ce groupe se forme dans la mouvance des arts déco. Et ils ont été très marqués par un voyage d'études qu'ils ont fait à New York, où ils découvrent donc Kissaring, Basquiat. Et donc, il y a vraiment cette idée que l'espace pictural est investi et envahi d'un répertoire formel de couleurs saturées, très énergiques comme ça, et qui va puiser dans un vocabulaire à la fois culture pop et culture street, entre guillemets. Et donc, dès sa naissance, ce mouvement-là promeut une sorte d'autre approche de la peinture assez radicale et jeune, quoi.
Et qu'est-ce qui explique, Magali Le Sauvage, qu'on puisse avoir le sentiment que les institutions culturelles l'ont quand même longtemps délaissé ? Est-ce que c'était un moment où, de toute façon, la peinture n'était pas à la mode ? Est-ce que c'est ce côté un peu venant de la rue ? Est-ce que il y a d'autres explications à une forme de négligence dont on peut se demander si elle est tout à fait réparée par cette exposition qui, elle-même, reste modeste ?
Je ne sais pas s'il y a une telle négligence que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est un artiste qu'on a quand même pas mal vu. Il faut savoir que cette exposition, c'est l'exposition d'un don d'Hervé Di Rosa au Musée National d'Art Moderne. Donc c'est aussi pour ça qu'elle n'est pas immense, c'est qu'en fait toutes les œuvres qu'on voit, c'est des œuvres qu'il donne donc au musée. Donc c'est pas une rétrospective, ça se veut pas une rétrospective de 40 ans de carrière.
Donc ça peut tenir sur deux salles et
oui,
une entrée.
Oui, puisque en fait il y a quand même, je sais pas, une trentaine, quarantaine d'œuvres peut-être. Donc ça se veut pas une rétrospective. C'est l'exposition d'un don d'un artiste à un musée. Et je crois qu'il y a un peu, j'ai l'impression qu'il y a un peu une légère mauvaise foi à dire qu'on est l'enfant terrible, cette expression très années 80 justement, l'enfant terrible de l'art, qu'on est rejeté des institutions. Hervé Di Rosa, c'est un artiste qui a quand même une belle cote sur le marché de l'art, c'est quelqu'un quand même qu'on a beaucoup vu dans des expositions. Peut-être qu'il n'a pas eu l'immense rétrospective sur 800 mètres carrés au Centre Pompidou, mais bon. Je pense qu'on peut. Je suis pas sûre.
Il a fait des résidences dans le monde entier.
Voilà,
comme l'exposition.
Je crois pas que ce soit un artiste qui soit vraiment rejeté.
Marginalisé,
comparé à d'autres, notamment des femmes comme Vera Molnar, qui est de l'autre côté et qui vient de décéder et dont l'œuvre est extrêmement importante et belle et qui n'a, elle, jamais vraiment eu de rétrospective. Donc je pense qu'il faut quand même un peu mesurer.
C'est un peu l'image construite.
Ouais, Hervé Di Rosa, en plus, ses images sont bien connues. C'est quand même un artiste... Je ne suis pas trop d'accord avec ce storytelling de l'artiste maudit.
Le travail, si on se centre maintenant un peu sur l'exposition, c'est présenté comme une succession de voyages permettant des hybridations entre des techniques développées ailleurs et ses propres personnages et images. Qu'est-ce que ça produit ? Est-ce que ça produit plutôt des judicieux alliages ou un peu des risques de pillage, pour le dire vite, Margot Nguyen ?
Dans les deux, parce que quand on parle d'énergie, on sent une chose incontestable, c'est que c'est un artiste animé par une grande énergie, le passe-monde ou le dévoreur-monde. Et donc, toutes ces étapes qui sont numérotées les unes après les autres...
Oui, il y a 19 étapes.
19 étapes visent à chaque fois à collecter ou extraire des techniques locales en collaboration avec des artisans voilà, qui maîtrisent certaines techniques.
Alors, il faut donner quelques exemples. Hein. Ça peut être la laque
au Vietnam, l'azulejos au Portugal, les icônes.
Donc, l'azulejos, c'est
les carreaux de céramique.
Des techniques des sculptures baroques venues. Là, je pensais à celles qui viennent d'Andalousie.
Ah oui, en Espagne, les sculptures au Cameroun. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté exhaustive et un peu encyclopédique de se faire l'artiste comme réceptacle de l'apprentissage technique à travers le monde. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça pose certaines questions. Et je pense que l'appareillage critique de l'exposition n'introduit malheureusement pas la question de l'appropriation des objets, l'appropriation des techniques, l'appropriation formelle. Et qu'en effet, aujourd'hui, c'est un peu problématique de montrer comme ça une compilation de tout ce travail sans mettre en question ou juste amener la question de l'appropriation.
Ouais, on ne voit dans les cartels parler que de rencontres, alors qu'on pourrait un peu parfois parler de sous-traitance.
Bah, sous-traitant, je ne sais pas, parce qu'on imagine quand même qu'il fait un peu les choses lui-même, du moins qu'il participe, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une espèce de boulimie comme ça à aller dans chaque pays emprunter les techniques et les motifs aussi d'ailleurs parfois de ces pays-là, qui en fait au bout d'un moment est assez perturbante, parce que le Hervé Di Rosa des années 80, donc dans cet esprit graffiti, BD, un peu trash comme ça, je trouve ça vraiment bien, comme le héros aussi de l'artiste héros donc des années 80, c'est vraiment intéressant. Et à un moment donné, donc en 93, il part comme ça et puis il fait un pays après l'autre, donc 19 en 20 ans. Enfin, c'est quand même aussi qu'est-ce qu'on a le temps de savoir,
de vraiment développer, de
relations humaines, intellectuelles avec les gens sur place. En fait, qu'est-ce qu'on a le temps vraiment de retenir de ça? Et donc, vous avez ces œuvres comme par exemple, il a fait en Afrique du Sud de la vannerie à partir de fils électriques. Donc, ça, c'est une tradition du 20e siècle qui est en Afrique du Sud, à partir desquelles vous pouvez faire des paniers ou des pots comme ça. Et vous avez cette frise en fait de personnages. Alors, il y a un noir, un qui a une peau blanche rose, on va dire, et un jaune, et c'est censé être donc tous les êtres humains, on est tous égaux. Enfin, je veux dire, ça aujourd'hui.
Autour du monde,
oui. Voilà, oui, un ça petit aujourd'hui. Côté, c'est très une. Toujours Benetton.
Voilà, Benetton, mais bon. Donc, les Asiatiques ne sont pas jaunes. Enfin, vous voyez, je veux dire, aujourd'hui, c'est des choses quand même qui passent vraiment plus très bien. Alors, je pense qu'il y a une certaine bonne volonté de sa part. Alors que je crois que c'est exagéré de le taxer de raciste, vous voyez. Mais par contre, il y a vraiment cette génération. Alors, je ne vais pas dire que c'est boomer, mais bon.
Si,
il y a quand même ce truc où, en fait, on se dit. Cette espèce de façon de ponctionner comme ça dans les pays des choses et en fait de consommer en fait en quelque sorte, si vous voulez. Lui va vous dire que c'est dans le partage qui est comme ça, c'est une manière de montrer ses techniques, de montrer ce travail, mais en fait ce qu'on retient, c'est Hervé Di Rosa. On ne sait pas qui sont les gens avec qui il a travaillé finalement. On ne connaît pas l'histoire de ses techniques. Ça reste quand même vraiment du.
Ça me semble intéressant ce que vous dites, mais est-ce que vous ne dites pas deux choses un peu différentes? C'est-à-dire le processus de création et effectivement un peu le côté je ne m'embarrasse pas, j'utilise des techniques, alors sans doute d'ailleurs de grands professionnels, mais il y a un peu moi je reste l'artiste et eux ce sont les artisans. Et ce que vous dites des types de figurations qui me semble être une autre critique et qui renvoie sans doute à un moment d'ailleurs où il y avait une polémique sur une fresque du Di Rosa à l'Assemblée nationale, où la manière de figurer notamment les personnages noirs avait posé problème à certains. Est-ce que vous pouvez nous la restituer?
Alors ça oui, justement. Il y a un tableau dans l'exposition qui s'appelle Storage of Treasure, donc le stockage des trésors en quelque sorte, qui est vraiment un tableau moi, que j'ai trouvé extrêmement problématique et qui rappelle justement la polémique au sujet de cette fresque qui est à l'Assemblée nationale. Donc le tableau qu'on voit au Centre Pompidou, vous avez une pièce fermée, donc une pièce close avec tout un tas de sculptures de pays différents, de statuettes en fait, comme vraiment le trésor accumulé qui est là, où tout est mélangé, elles sont comme coincées comme ça, c'est assez claustrophobique comme image. Et puis la porte est ouverte, vous avez deux yeux sans corps comme ça qui regardent, qui viennent aussi de son iconographie des années 80. Et cette image, elle rappelle donc effectivement cette fresque qui se trouve toujours donc à l'Assemblée nationale, qui est une fresque qui est censée célébrer la première abolition de l'esclavage en 1794, et qui montre en fait des figures noires qui se libèrent de leur chaîne, avec qui arborent un grand sourire comme ça, avec des lèvres rouges très exagérées, des grands yeux. Enfin, c'est vraiment, ça reprend l'image caricaturale du noir qu'on a pu voir dans les années 20-30.
Oui, l'iconographie banania, comme
voilà, exactement.
Vous pouvez dire.
Et donc, il y avait eu effectivement cette tribune de Mam Fatou Niang et de Julien Suodo en 2019, qui avaient découvert cette fresque, qui sont deux universitaires français qui vivent aux États-Unis, mais qui avaient fait une tribune qui avait suscité beaucoup de critiques en disant « Mais Hervé Di Rosa, il adore l'Afrique, en gros. Enfin, vous voyez, bon, il a beaucoup travaillé en Afrique, donc il n'est pas raciste. » Alors, je crois qu'ils n'ont jamais dit qu'il était raciste. C'est juste, en fait...
Non, c'est toute la question de, voilà, est-ce qu'au fond, en reproduisant une iconographie caricaturale, on peut la détourner ou au contraire, on la reproduit. Enfin, je pense que c'était ça qui est un peu un cœur des questions actuelles.
Mais l'excuse, c'était qu'en fait, ces figures, elles reprenaient aussi sa manière de peindre des années 80, avec ses figures grotesques, avec ses gros yeux, ses grandes bouches, etc. Sauf que là, clairement, personne ne pouvait pas voir la similitude entre ces figures et les figures, en effet, banania caricaturales. Donc, en fait, que l'Assemblée nationale... Enfin, comme il disait bien dans la tribune, en fait, si vous voulez, qu'ils fassent ces tableaux, qu'elles se vendent, si... Bon... Mais par contre, qu'elle soit dans un lieu comme l'Assemblée nationale, ouais, un lieu de la représentation nationale, pour célébrer l'abolition de l'esclavage, ça, c'est quelque chose qui est quand même d'une maladresse, le mot est faible, hallucinante.
Et pour, sur ces questions, pour revenir sur l'exposition, Margot Nguyen, je veux bien votre sentiment. On peut parler d'une autre des pièces qui est intéressante. C'est une sculpture à 8 bras qui est présentée dans la deuxième salle, pour laquelle Hervé Di Rosa travaille avec le sculpteur camerounais Mamadou Kouyam. Mais il a aussi couronné cette statue avec un vase en céramique, lui, réalisé au Portugal. Et là, on peut se demander un peu, bon, voilà, effectivement, est-ce qu'il fait de la fusion food ou de la rencontre.
Ouais, j'ai peu d'avis.
Non, mais sur le, on voit le côté world music, quoi.
Ouais, world, voilà, c'est ça, c'est une pensée world, un peu à la fois exhaustive, encyclopédique et pas fondée. Voilà. Et moi, je trouve que le plus authentique de sa production, c'est peut-être cette démarche sur les arts modestes. Enfin, et voilà, la dernière vitrine derrière, et donc ce paysage de robots, de jouets en plastique, où tout un chacun pourra justement retrouver un jouet d'enfant qu'il a vu. Je trouve que c'est peut-être ça le plus généreux le plus généreux à offrir au monde, justement. Et ce projet donc du musée des Arts Modestes.
C'est une des vitrines, comme on en voit beaucoup à 7 au musée international des Arts Modestes, avec effectivement plein d'objets,
de jouets en plastique, de
présenter
figurines,
sous des vitrines,
de
qui peuvent rappeler à plein de générations leur propre enfance.
C'est ça.
Donc en gros, on est en train de dire que finalement c'est un meilleur collectionneur.
Ouais. Non, mais il y a ce truc de l'accumulation. Non, et c'est ça. Et l'exemple que vous donniez, je pense qu'il y a une vraie, il est dévoré par une sorte de collectionnite de tour du monde, et peut-être que c'est dans ses vitrines et en collectionnant des jouets que finalement sa démarche se ressent aussi.
Hervé Di Rosa, le passe-monde, cela a ouvert le 28 février dernier et ce sera visible jusqu'au 26 août prochain.
L'esprit critique. Mediapart.